Bonjour, bonjour à nos auditeurs, bonjour à Christian qui nous accompagne.
Bonjour.
Ce matin, alors on va redescendre un petit peu au Moyen-Âge, parce que c'est vrai que l'instrument que j'ai choisi ce matin, il vient de presque de la nuit des temps, dirons-nous. Alors, puisqu'il s'agit de la vielle à roue, vous savez, on l'utilisait encore maintenant en Bretagne, mais aussi dans les musiques folkloriques, elle a encore cours. Nous verrons pourquoi tout à l'heure. La vielle à roue apparaît dans l'iconographie médiévale autour du Xe siècle en tant qu'organistrum. Cet instrument qu'on aperçoit gravé sur de nombreux tympans d'église construites sur les chemins menant à Saint-Jacques-de-Compostelle, était alors un instrument d'église destiné au chant, joué par deux personnes. Alors, l'une tournait la roue, l'autre tirait ou poussait, selon, on ne sait pas trop d'ailleurs, des tirettes. L'ancêtre principal de la vielle à roue, cet organimentum, va changer de forme et se décliner en version plus réduite au fil des siècles. La vielle à roue que l'on connaît trouve sa forme définitive autour du XVe siècle, utilisée par les troubadours et les conteurs pour divertir et raconter des histoires. Elle devient obsolète avec l'arrivée de l'imprimerie et disparaît avec les troubadours. Elle tombe alors dans le milieu populaire de cette époque. On en retrouve d'ailleurs quelques imageries, par exemple dans Le mendiant aveugle, dans les peintures de Jérôme Bosch ou de Bruegel. Dans la première partie du XVIIIe siècle, la noblesse de la cour de Versailles s'y intéresse. Et le roi actuel, Louis XV, apprend même à en jouer. Très mal d'ailleurs, paraît-il. Hein. Mais enfin, bon, il a toujours fait une tentative. L'instrument connaît un renouveau. Puis, après, en 1789, à la Révolution française, et puis l'abolition des privilèges, renvoie une nouvelle fois la roue, la vielle à roue, vers les classiques populaires. Un grand nombre d'instruments sont alors détruits, oubliés ou bien revendus à bas prix dans les années qui suivent. Après ces trajectoires contraires, ces allers-retours et une tombée en désuétude, la vielle à roue connaît un regain d'intérêt autour des années 80 avec le renouveau des musiques folk traditionnelles ainsi que l'amplification de l'instrument qui devient alors électro-acoustique. Le mieux, c'est qu'on en écoute un petit morceau. On va se tourner vers Christian. On vous a ramené trois formes différentes de l'utilisation de la vielle à roue.
Le premier morceau que nous allons écouter s'appelle « Monter dans les bois ». Thank you.
Elle est souvent considérée comme un instrument médiéval ou bien alors celtique. Un instrument de mendiant, dit-on, un peu rude. Mais on oublie quand même tout son passé savant. Il faut savoir que M. Vivaldi lui-même a composé pour la vie à la roue. À présent, la qualité des luthiers actuels a complètement mis de côté tous ces clichés. Alors vous allez me dire, mais comment fonctionne cet instrument ? Bien, le principe est très très simple. Je pose une corde, je tourne la roue et le son est généré. Pour jouer une note spécifique, alors on utilise des cordes spéciales que l'on appelle des chanterelles, puisqu'elles vont chanter la mélodie. Alors, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, on les retrouve dans les groupes folkloriques, puisqu'il existe, et il existe toujours, je pense, ou il existait, à Gourossignol, dans le Vertillacois, un groupe folklorique qui est là depuis fort longtemps et qui anime quelquefois les fêtes, qui s'appelle les chanterelles. Voilà, on a trouvé maintenant, moi j'ai fait comme vous, j'ai appris que cette corde qu'on appelle la chanterelle est devenue le titre de ce groupe. Il suffit d'actionner les petites touches de bois, les sautereaux, qui viennent couper la longueur vibrante de la corde pour produire des sons du grave jusqu'au très aigu, tout ça sur deux octaves. Tiens, puisque on en parle, je vais vous en parler encore un petit peu. Allez, voilà. Ce qui est remarquable dans la vie à la roue, c'est que chaque corde a un nom. Il y a des cordes d'accompagnement que l'on appelle des bourdons. Il y a la mouche, par exemple, ou bien la trompette. Cette dernière a de particulier d'avoir une petite pièce de bois à son extrémité. En français, on l'appelle le chien. En gascon, elle se nomme la cigale. C'est un chevalet. La plupart des instruments à cordes ont un, mais celui-là en a en particulier, d'être mobile, et donc ça veut dire qu'il n'est pas fixé. Lorsque la corde subit une vibration constante, le chevalet, lui, reste collé sur la table d'harmonie. En revanche, si je fais avec une accélération avec la main droite, le chevet se lève et rebondit sur la table pour créer une striulation. En variant les accélérations, je peux générer les cellules rythmiques d'une certaine manière. Ce parasite devient, alors ce qui est sonore, devient par exemple un ami. Donc on va voir si c'est l'ami de notre musique, deuxième fonction.
Eh bien, le deuxième morceau que nous allons écouter est d'Andrei Vinogradov et ça s'appelle « River's Dance ». Thank you.
Si vous êtes intéressé par l'histoire de la vielle, je vous recommande le livre de M. Romain Baudouin qui s'appelle Une musique sans fin. Pourquoi on appelle ça une musique sans fin ? Ben, je vais vous dire pourquoi. C'est vrai que quand on l'a dans l'oreille, ben, on se laisse entraîner et vous allez voir pourquoi. C'est très spécifique à cet instrument que j'adore d'ailleurs, puisque j'adore les troubadours forcément. Je pense que Christian aussi, qui est amateur de musique, oui, il doit vrai. Aussi l'aimer.
C'est très entraînant. Très entraînant. On entre dans une espèce de transe quand
voilà,
on l'écoute.
Voilà, justement, je vais vous en parler. La spécificité de l'instrument est due à trois éléments. D'abord, cette pièce dont je vous parlais tout à l'heure, pièce en bois qu'on appelle le chien ou la cigale, le mouvement circulaire de la main droite et le mouvement linéaire de la main gauche. Donc, l'association d'un mouvement rythmique ou d'un mouvement mélodique, ce mouvement rotatif continu est assez facilement fait perdre facilement la notion du temps. Vous savez, ça fait un bourdon, ça fait comme un son rotatif, un bourdon qui anime l'espace-temps, qui nous plonge dans une espèce de musique sans fin. La pratique de cet instrument, justement, se met dans une bulle. On est assez facilement absorbé, ce qui peut mener, justement, Christian, puisque vous en parliez, à une position méditative ou de transe,
eh oui.
Hors de notre quotidien. Alors, avant de terminer, peut-être on va... Allez, je vous en dis encore un petit morceau, puis après on écoutera le dernier morceau. La vielle à roue, alors, est-ce que c'est... Vous allez peut-être me dire, est-ce que c'est facile à jouer ? Ah ben, le père de M. Romain Baudouin disait... Ah là, mon père disait toujours, lui, avec la vielle à la roue, on passe la moitié de son temps à s'accorder et l'autre moitié de son temps à jouer faux. C'est assez facile de s'amuser sur une vielle à la roue, contrairement à un instrument comme la flûte traversière, dont la pratique nécessite de maîtriser l'embouchure de la veille qui permet de générer par son son la seule action de la manivelle. Voilà. Pour acquérir un tour de roue régulier, on commence à mettre des coups de poignet. En revanche, il faut apprendre à anticiper la mécanique d'un mouvement linéaire avec un mouvement quand même circulaire. C'est un peu délicat, certes, mais la maîtrise parfaite au niveau professionnel est un travail. Et le travail de toute une vie. Parce que quand vous les regardez, que ce soit les Bretons, les gens de la Dordogne, on en trouve. Et quand on le regarde, on se dit oh, ben, c'est facile. Non, je ne crois pas que ça soit si facile. D'ailleurs, on va écouter le dernier morceau et puis après, on se retrouve.
Eh bien, le dernier morceau, c'est Grégory Jolivet, Branle à 6 du Limousin. Thank you.
Alors vous allez me dire, mais quel est le répertoire de la Via Larou, puisque il n'y a plus de chanteurs d'autrefois, il n'y a plus de gens qui pratiquent beaucoup ça, hormis les choses modernes d'aujourd'hui. Alors, ce qui est intéressant justement dans cet instrument, c'est qu'il n'y a pas de répertoire principal. C'est plutôt l'instrumentiste avec sa propre pratique qui colore l'instrument lui-même. En fait, la Via Larou n'est rien d'autre qu'un mécanisme pour générer du son. Cet instrument a toujours vécu des moments dans la culture savante, et d'autres d'ailleurs, cautionné bien sûr par aussi maintenant la culture populaire, dans l'Europe tout entière, mais en France notamment, avec une grande pratique dans les régions du centre. Alors on la trouve dans le Berry, dans la Creuse, dans le Limousin, dans l'Auvergne, ici en Dordogne, et puis dans les Landes aussi. Vous voyez que c'est la pratique de la Via Larou se fait un petit peu partout. Dans les années 80-90, il y a aussi un gros travail qui a été fait sur ce qu'on appelle les instruments électroacoustiques et électriques. Aujourd'hui, on retrouve la Via Larou dans la pop musique. Jean-Jacques Goldman a fait tourner les violons avec la Via Larou. Voilà, c'était à peu près tout ce que je voulais vous dire. Ah tiens, puisque justement, Christian, on parlait des troubadours. Il y a un monsieur qui s'appelle Jean Domeyau, qui avait fait, il y a bien 20 ans en arrière, un répertoire de chansons du Moyen-Âge. Il faisait ça avec sa Via Larou, parce que c'est un grand musicien de ça. C'est monsieur Jean Domeyau. Je vous le ramènerai dans l'été.
Très
parce
bien.
Que les textes sont beaux et la musique aussi.
Bon,
on
parfait.
Va en profiter pour se dire au revoir.
Eh bien, on va se dire au revoir.
Alors, profitez bien de la semaine qui vient et prenez bien soin de vous.
Restez à l'abri et hydratez-vous.
Merci Christian.
Je vous en prie, merci à vous. Bonne semaine.